Chapitre 2. Il n'y réussit pas mieux que le reste de la garnison, ni la société tout entière. Les deux officiers, dont on avait jusque-là fait assez médiocre cas, devinrent l'objet d'une curiosité universelle qui s'attachait au motif de leur querelle. Le salon de Madame de Lionel était le centre des hypothèses ingénieuses. Cette dame elle-même fut, pendant quelque temps, assaillie de questions pour avoir été la dernière à parler à ces deux malheureux et téméraires jeunes gens avant leur départ pour le jardin fermé où ils s'étaient livrés à la nuit tombante ce duel féroce. Elle affirmait n'avoir rien observé d'inaccoutumé dans leur attitude. Évidemment, le lieutenant Ferraud était marri de se voir éloigné du salon. Rien de plus naturel. Un homme n'aime jamais être dérangé au cours d'un entretien avec une dame réputée pour son élégance et sa sensibilité. D'ailleurs, le sujet importuna vite Madame de Lionel, car les bavardages les plus audacieux ne trouvaient à établir aucune corrélation entre cette affaire et sa personnalité. Et elle s'agaçait d'entendre avancer qu'il devait bien y avoir une femme au fond de l'histoire. Cette irritation qui ne tenait ni à son élégance ni à sa sensibilité, mais à un côté plus instinctif de sa nature, devint si forte qu'elle finit par interdire toute allusion à l'histoire sous son toit. Près de son divan, on lui obéissait, mais dans le salon, à l'écart, on continuait à soulever plus ou moins le manteau d'un silence imposé. Un personnage à qui son long et pâle visage donnait un air ovin opinait, en hochant la tête, qu'il s'agissait d'une affaire ancienne envenimée par le temps. On lui objectait que la jeunesse des deux adversaires ne justifiait guère une telle théorie, et qu'il sortait, au surplus, de régions lointaines et bien différentes de la France. Un sous-intendant militaire, célibataire aimable et cultivé, en culotte de casimir, bottes à la hessoise et tunique bleue brodée d'argent, qui affectait de croire à la transmigration des âmes, suggéra que les jeunes gens avaient pu se rencontrer dans une existence antérieure. Leur discorde datait d'un passé oublié. Elles pouvaient rester parfaitement inconcevables dans l'état présent de leur être, mais leurs âmes, qui se souvenaient de leur haine, manifestaient un antagonisme instinctif. À tout prendre, l'affaire était si absurde, tant du point de vue militaire et mondain que de celui de l'honorabilité et de la sagesse, que cette explication fantastique paraissait plus raisonnable que toute autre. Les deux officiers n'avaient fait à personne de confidences précises. L'humiliation d'avoir eu le dessous dans un combat singulier et le sentiment inquiet de s'être laissé attirer dans une mauvaise affaire par l'injustice du sort imposaient au lieutenant Ferraud un mutisme féroce. Il se méfiait de toutes les sympathies qui devaient aller naturellement au freluquet d'état-major. Il déversait ses imprécations dans le sein de sa jolie soubrette qui le soignait avec dévouement et assistait avec terreur à ses affreux délires. Elle trouvait parfaitement juste que le lieutenant Dubert dût un jour payer tout cela. Mais sa préoccupation première restait que Ferraud ne s'excitât pas trop. Il paraissait si admirable et si fascinant à l'humilité de son cœur que son seul souci était de le voir promptement rétabli. Dût-il reprendre aussitôt ses visites au salon de Madame de Lionel. Le lieutenant Dubert garda le silence pour la raison bien claire qu'il n'avait, en dehors d'un jeune brosseur stupide, personne à qui parler. Au surplus, il sentait que l'épisode, si grave professionnellement, avait aussi son côté comique. À la réflexion, il se disait encore qu'il eût aimé tordre le cou au lieutenant Ferraud. C'était là, d'ailleurs, façon de parler plus imagée que précise, et qui traduisait un état d'esprit plutôt qu'une impulsion physique véritable. Il subsistait en même temps chez ce jeune homme un sentiment de camaraderie et une bienveillance naturelle qui lui faisait répugner à aggraver la situation du lieutenant Ferraud. Il n'allait pas répandre à droite et à gauche cette maudite histoire. À l'enquête, il devrait dire la vérité pour se défendre, et cette seule perspective l'agaçait. Il n'y eut pas d'enquête, car l'armée entra en campagne et Dubert, relâché sans observation, prit son service au régiment. Ferraud, le bras à peine sorti de l'écharpe, retrouva sa place dans l'escadron et, sans essuyer de questions indiscrètes, acheva sa convalescence dans la fumée des champs de bataille et la fraîcheur des bivouacs nocturnes. Ce traitement fortifiant lui réussit si bien qu'aux premières rumeurs d'un armistice, il put songer sans crainte à son duel particulier. Cette fois, il s'agissait d'un combat en règle. Il dépêcha deux amis au lieutenant d'Hubert, dont le régiment campait à petite distance du sien. Ses amis n'avaient posé aucune question à leur commettant. « Il me doit une revanche », le bel officier d'état-major avait-il dit d'un ton sombre, et ils étaient tranquillement partis pour leur mission. D'Hubert n'eut pas de peine à trouver deux amis également discrets et dévoués à leurs camarades. « Voilà un écervelé qui a besoin d'une leçon », déclara-t-il sèchement. Et ils ne demandèrent pas de meilleure raison. Dans ces conditions, une rencontre à l'épée de combat fut décidée pour un matin dans un champ propice. À la troisième reprise, D'Hubert se trouva allongé sur l'herbe humide de rosée avec un trou au côté. Un clair soleil se levait à sa gauche sur un paysage de prés et de bois. Un chirurgien, non l'amateur de flûte, mais un autre, se penchait sur lui pour examiner la blessure. « Vous l'avez échappé belle, mais ce ne sera rien, » affirma-t-il. D'Hubert entendit ces paroles avec plaisir. Un de ses témoins, assis dans l'herbe mouillée, lui soutenait la tête sur ses genoux et disait « C'est la fortune de la guerre, mon pauvre vieux. Que veux-tu? Vous feriez mieux de vous réconcilier comme deux bons bougres. Allons !»« Tu ne sais pas ce que tu demandes, » murmura le lieutenant d'Hubert d'une voix faible. Pourtant, s'il... Dans un autre coin de la prairie, les témoins de Ferro le pressaient d'aller serrer la main de son adversaire. « Vous êtes quitte, que diable! Il n'y a rien de mieux à faire. Ce D'Hubert est un brave garçon. Je les connais, ces beaux favoris de généraux !» grommelait entre ses dents le lieutenant Ferro, dont la sombre expression découragea chez ses amis toute tentative de réconciliation. Les témoins se saluèrent de loin en emmenant leurs hommes. L'après-midi, le lieutenant D'Hubert, qu'une grande bravoure unie à un caractère franc et égal rendait très populaire, reçut de nombreuses visites. On remarqua que, contrairement à l'habitude, Ferro ne sortit guère pour recevoir les compliments de ses amis. Les félicitations ne lui auraient pourtant pas fait défaut, car lui aussi était aimé pour l'exubérance de sa nature méridionale et la simplicité de son caractère. Partout où les officiers avaient coutume de se réunir à la fin de la journée, on discuta à tout point de vue le duel du matin. Bien que le lieutenant D'Hubert eût eu cette fois le dessous, on louait fort son jeu, à coup sûr très serré et très scientifique. On chuchotait même que s'il avait été touché, c'était pour avoir voulu épargner son adversaire. Maint connaisseur affirmait pourtant que la vigueur et le cran du lieutenant Ferro étaient irrésistibles. Si l'on discutait ouvertement les mérites des deux officiers comme combattants, on passait rapidement et avec circonspection sur leur attitude après le duel. Ils paraissaient irréconciliables et tout le monde le déplorait. Mais ils savaient bien, somme toute, ce que leur dictait le souci de leur honneur, et ce n'était pas aux camarades à aller fourrer le nez dans leurs affaires. Quant à l'origine de la querelle, l'impression générale était qu'elle devait dater de leur séjour à Strasbourg. Cette opinion faisait pourtant hocher la tête au chirurgien flûtiste. C'était une affaire bien plus ancienne, à son sens. « Voyons, vous devez connaître toute l'histoire !» crièrent plusieurs voix avec une ardente curiosité. « De quoi s'agissait-il donc ?» Il leva délibérément les yeux au-dessus de son verre. « À supposer que je connusse les faits, vous ne pourriez pas me demander de vous les raconter, car les deux intéressés ne veulent rien en dire. » Il sortit en laissant derrière lui une atmosphère de mystère. Il ne pouvait s'attarder davantage, car l'heure magique de la flûte était proche. Après qu'il fut parti, un jeune officier déclara solennellement « C'est évident, il a les lèvres scellées. » Personne ne discuta la haute probabilité d'une telle assertion, qui ajouta encore à l'impressionnant secret de l'affaire. Guidés par leur seule bienveillance et leur désir de bonne harmonie, plusieurs anciens des deux régiments proposèrent de constituer un tribunal d'honneur auquel les deux jeunes gens s'en remettraient du soin de leur réconciliation. Malheureusement, ils s'adressèrent d'abord à Ferro, qu'ils pensaient devoir trouver apaisé par sa victoire récente et porté à la modération. Bien que le raisonnement fût plausible, la tentative fut malheureuse. Grâce à ce relâchement de la tension morale qui suit une satisfaction de vanité, Ferraud avait, dans le secret de son cœur, consenti à revenir sur le cas et était arrivé à douter, sinon de la justice de sa cause, au moins de la sagesse de sa conduite. Il n'en répugnait que mieux à parler de l'affaire. La proposition des anciens le mettait dans une situation délicate. Il en fut agacé, et par une logique paradoxale, cet agacement réveilla son animosité contre le lieutenant Dubert. Allait-il être éternellement poursuivi par cet individu, qui avait un talent infernal pour circonvenir le public? Il était pourtant difficile de s'opposer tout net à une médiation sanctionnée par le code de l'honneur. Il se tira de cette difficulté par une attitude de sombre réserve. Il tortillait ses moustaches et proférait des paroles dilatoires. Le cas était parfaitement clair, et il n'aurait pas plus de vergogne à l'exposer devant un tribunal d'honneur qu'à le défendre sur le terrain. Cependant, il ne voyait pas de raison de sauter sur la proposition avant de savoir comment son adversaire allait l'accueillir. Plus tard dans la soirée, il déclara en public, dans un renouveau d'exaspération, que ce serait la meilleure solution pour le lieutenant Dubert, car, à la prochaine rencontre, il ne devait pas compter s'en tirer avec 3 pauvres semaines de lit. Cette vantardise aurait pu être dictée par le plus pur machiavélisme. Les natures méridionales cachent souvent, sous une exubérance apparente de gestes et de langage, un certain degré de cautèle. Ferraud, qui se méfiait de la justice des hommes, n'avait que faire d'un tribunal d'honneur, et les paroles qui s'accordaient si bien avec son tempérament avaient aussi l'avantage de travailler pour lui. Prononcées à bon escient ou non, elles furent rapportées en moins de 24 heures au lieutenant Dubert. Aussi le blessé, soutenu sur son lit par un tas d'oreillers, opposa-t-il le lendemain aux offres de conciliation l'assurance que l'affaire n'était pas de nature à supporter la discussion. La pâleur du jeune officier, la faiblesse d'une voix qu'il devait encore ménager, et la dignité courtoise de son accent impressionnèrent fort les auditeurs. Ces détails, rapportés en tout lieu, firent plus pour épaissir le mystère que les fanfaronnades de Ferraud. Celui-ci fut très soulagé d'une telle conclusion. Il commençait à goûter fort la curiosité générale et se plaisait à l'aiguiser par son attitude de discrétion farouche. Le colonel du lieutenant Dubert était un vieux soldat grisonnant et tanné qui envisageait très simplement ses responsabilités. « Je ne puis, se disait-il, laisser les meilleurs de mes subalternes se faire abîmer pour rien. Il faut que je tire moi-même cette affaire-là au clair. Il parlera quand le diable y serait. Le colonel doit être mieux qu'un père pour ces jeunes gens. » Et il portait, en réalité, à tous ces hommes l'affection que le père d'une nombreuse famille peut éprouver pour chacun de ses membres. Si une erreur de la Providence faisait naître les humains sous l'espèce de simple Pékin, ils renaissaient au régiment comme les enfants d'une même famille, et cette naissance militaire comptait seule. À la vue du visage blême et des yeux creux du lieutenant Dubert, le cœur du vieux soldat ressentit une compassion sincère. Toute sa tendresse pour son régiment, ce corps qu'il tenait dans sa main pour le lancer ou le ramener en arrière à son gré, qui exaltait son orgueil et résumait toutes ses pensées, se concentra en un instant sur la personne de ce jeune subalterne si riche de promesses. Il s'éclaircit la gorge de façon menaçante et fronça des sourcils ténébreux. « Vous comprenez, commença-t-il, que je me moque parfaitement de la vie du dernier de mes hommes. Je vous lancerai au galop dans un abîme de perdition avec vos chevaux, les 843 cavaliers que vous êtes, sans plus de remords que je n'en ai à tuer une mouche. » « Oui, mon colonel, et vous nous montreriez le chemin, » fit Dubert avec un pâle sourire. Le colonel, qui sentait la nécessité de la diplomatie, faillit éclater. « Je veux vous faire comprendre, lieutenant Dubert, que je saurais, s'il le fallait, rester à l'écart et vous laisser tous tomber en enfer. Je suis homme à faire pareil sacrifice, si le bien du service et mon devoir envers la patrie l'exigent. D'ailleurs, c'est chose inconcevable, et ce n'est pas la peine d'en parler. » Il roulait des yeux féroces, mais son accent s'adoucit. « Vous avez encore une goutte de lait sur votre belle moustache, mon garçon. Vous ne savez pas ce dont un homme comme moi est capable. Je me cacherai derrière une meule de foin si... Ne ricanez pas comme cela, jeune homme. Vous osez? S'il ne s'agissait pas d'une conversation d'homme à homme, je vous... Écoutez, je suis responsable des vies qui me sont confiées et ne dois les consacrer qu'à la gloire de notre patrie et à l'honneur du régiment. Comprenez-vous cela? Eh bien, à quoi diable songez-vous en vous laissant embrocher de la sorte par un lieutenant du 7e hussard? C'est une véritable honte. D'Hubert éprouvait une mortification excessive. Il haussa légèrement les épaules sans répondre. Il ne pouvait ignorer tout ce qu'il portait de responsabilité. Le colonel baissa les paupières et adoucit encore sa voix. « C'est déplorable, » murmura-t-il. Puis, changeant d'attitude, « Voyons, » fit-il, d'un ton persuasif, mais avec cet accent d'autorité qui appartient au vrai meneur d'hommes, « il faut arranger cette affaire. Je veux en être informé tout au long. Je demande, comme votre meilleur ami, à tout savoir. » La haute puissance de l'autorité, l'influence persuasive de la bonté, affectèrent fort le blessé qui sortait de son lit de douleur. La main que D'Hubert appuyait sur le pommeau d'une canne trembla légèrement. Cependant, son tempérament de septentrional, sentimental mais prudent, et clairvoyant dans son idéalisme, contint le désir qui le poussait à raconter toute la monstrueuse et imbécile affaire. Selon le précepte d'une sagesse transcendante, il tourna 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, et ne prononça que des paroles de gratitude. Le colonel l'écoutait, intéressé d'abord, puis il parut intrigué. À la fin, fronçant les sourcils, « Vous hésitez, mille tonnerres! Ne vous ai-je pas dit que je consentais à discuter avec vous en ami ?»« Oui, mon colonel, » répondit doucement D'Hubert, « mais j'ai peur qu'après m'avoir écouté en ami, vous n'agissiez en supérieur. » Le colonel fit claquer ses mâchoires d'un air soucieux. « Et alors, » fit-il nettement, « l'affaire serait-elle donc si terriblement honteuse ?»« Pas du tout, » déclara D'Hubert d'une voix faible mais nette. « Évidemment, j'agirai pour le bien du service. Rien ne saurait m'en empêcher. Pourquoi pensez-vous que je vous demande de me raconter votre histoire ?»« Je sais que ce n'est pas par vaine curiosité, » protesta le lieutenant. « Je suis sûr que vous agirez pour le mieux. Songez seulement au bon renom du régiment. » « Il ne saurait être compromis par une folie juvénile de lieutenant, » remontra sévèrement le colonel. « C'est vrai, mais il peut l'être par les ragots. On dira qu'un lieutenant du 4e hussard se cache derrière son colonel pour ne pas rencontrer un adversaire. Et ce serait pis que de se mettre derrière une meule, pour le bien du service. Je ne puis y consentir, mon colonel. » « Personne n'oserait rien dire de pareil, » commença avec fureur le colonel, dont la phrase s'acheva en un murmure dubitatif. La bravoure du lieutenant D'Hubert était bien connue, et le colonel savait parfaitement que le courage en duel, en combat singulier, passe à tort ou à raison pour un courage d'espèce particulière. Il était éminemment nécessaire qu'un officier de son régiment possédât toutes les espèces de courage et le prouvât aussi. Le colonel avança la lèvre inférieure et fixa au loin un regard immobile. C'était là chez lui marque de perplexité, expression pratiquement inconnue à son régiment, car la perplexité est un sentiment incompatible avec les fonctions de colonel de cavalerie. L'officier était accablé par la nouveauté déplaisante d'une telle sensation. Comme il n'était pas habitué à réfléchir en dehors de questions professionnelles, ayant trait au bien-être des hommes et des chevaux et de leur utilisation sur le champ de gloire, ses efforts intellectuels dégénéraient en une simple répétition d'expressions violentes. « Mille tonnerres » pensait-il, « sacré nom de nom !» D'Hubert fut secoué par une quinte de toux douloureuse et ajouta d'un ton las, « Il y aura assez de méchantes langues pour dire que j'ai eu peur, et je pense que vous ne me demanderez pas de laisser passer une telle imputation. Je puis me trouver, d'un moment à l'autre, avec une douzaine de duels sur les bras, au lieu de cette unique affaire. » La simplicité directe d'un tel argument frappa le colonel. Il regarda fixement son subordonné. « Asseyez-vous, lieutenant, » grommela-t-il. « Voilà une sacrée diable de... Asseyez-vous. » « Mon colonel, » reprit D'Hubert, « je n'ai pas peur des mauvaises langues. Il y a une façon de les faire taire. Songez seulement à ma tranquillité d'esprit. je ne pourrais me défaire de l'idée que j'aurais causé la perte d'un camarade. Si vous agissez, l'affaire ira plus loin. L'enquête a été abandonnée, n'en parlons plus. Elle aurait été absolument fatale à Ferraud. Hein? Vous dites? Il s'est donc si mal conduit? Oui, assez mal, murmura Dubert, à qui sa faiblesse persistante donnait envie de pleurer. Comme l'autre officier n'appartenait pas à son régiment, le colonel n'eut pas grand-peine à croire son subordonné. Il se mit à arpenter la pièce. C'était un bon chef, un ami capable de discrète sympathie. Pourtant, il était homme aussi, et le laissa voir, car il était étranger à tout artifice. « Le diable, lieutenant, bredouilla-t-il, dans la simplicité de son cœur, c'est que j'ai déclaré mon intention d'aller jusqu'au bout de l'affaire. Et quand un colonel affirme une chose, vous comprenez ?» Mon colonel interrompit vivement Dubert, « Laissez-moi vous supplier de vous contenter de ma parole d'honneur. Je vous affirme avoir été entraîné dans une maudite histoire qui ne me laissait pas de choix. Il n'y avait pas d'autre alternative compatible avec ma dignité d'homme et d'officier. Voilà, en somme, le fond de l'affaire, mon colonel. Je vous le montre. Le reste n'est que détails sans importance. » Le colonel s'arrêta court. La réputation de bon sens et de bonne humeur du lieutenant Dubert pesait dans la balance. Tête froide, cœur chaud et sincère, toujours correct dans sa conduite. Il fallait lui faire confiance. Le colonel contint virilement une immense curiosité. « Hum, vous affirmez que comme homme et comme officier, vous n'aviez pas le choix, dites-vous. » « Comme officier, officier du 4e hussard surtout, » insista Dubert. « Non, mon colonel, et c'est le fond de l'affaire. » « Soit, bien que tout de même, je ne vois pas pourquoi, à votre colonel. Un colonel est un père, que diable !» Le colonel n'aurait pas dû laisser échapper Dubert, qui prenait avec humiliation et désespoir conscience de son insuffisance physique. Il cédait à un entêtement de malade et sentait avec terreur ses yeux se remplir de larmes. L'affaire était trop lourde pour lui. Une larme roula sur sa joue pâle et amaigrie. Le chef se détourna brusquement. On eût entendu tomber une épingle. « C'est une stupide histoire de femme, sans doute. » En prononçant ces paroles, le colonel se retourna vivement pour surprendre la vérité, qui n'est pas une belle femme cachée au fond d'un puits, mais un oiseau timide que la ruse seule peut saisir. Ce fut le dernier effort de sa diplomatie. Il discerna l'incontestable vérité dans l'attitude du lieutenant, qui levait au ciel ses yeux et son bras affaibli en une protestation suprême. « Pas une histoire de femme, hein ?» gronda le colonel avec un regard menaçant. « Je ne vous demande ni quoi ni quel. » Tout ce que je veux savoir, c'est s'il y a une femme dans l'affaire. » Les bras du lieutenant tombèrent, et d'une voix brisée, « Rien de pareil, mon colonel. »« Sur votre honneur, » insista le vieux soldat. « Sur mon honneur. » »« Très bien, » fit le colonel en se mordant la lèvre d'un air pensif. Les arguments du lieutenant, joints à son propre penchant pour le jeune homme, l'avaient convaincu. Il retint encore un instant Dubert, puis le congédia avec bonté. Gardez le lit quelques jours de plus, lieutenant. À quoi diable a pu penser le major, qui vous dit en état de reprendre votre service? Au sortir de l'entrevue, Dubert ne dit rien à l'ami qui l'attendait pour le ramener chez lui. Il ne dit rien à personne. Le lieutenant n'était pas communicatif. Mais ce soir-là, en se promenant sous les ormes qui poussaient près de son logis, en compagnie de son second, le colonel ouvrit les lèvres. « Je connais le fin mot de l'histoire, » affirma-t-il. Le lieutenant-colonel, petit bonhomme sec et noir, à favoris courts, dressa l'oreille sans laisser échapper un signe de curiosité. « Ce n'est pas une vétille, » ajouta le colonel avec gravité. L'autre attendit un long moment avant de murmurer. « Vraiment, mon colonel ?»« Pas une vétille, » répéta le chef, qui regardait droit devant lui. Mais j'ai interdit à Dubert d'envoyer un défi à ce Ferraud ou d'en relever un avant un an. Il avait trouvé cet échappatoire pour sauvegarder son prestige. Cette interdiction eut pour résultat de donner un sceau officiel au mystère dont s'enveloppait la terrible querelle. Dubert opposa un silence glacial à toutes les tentatives faites pour lui arracher la vérité. Ferraud, secrètement inquiet d'abord, retrouva peu à peu son assurance. Il dissimulait sous les éclats de rire sardoniques son ignorance des raisons de la trêve imposée, comme s'il avait trouvé un motif de joie dans des faits qu'il entendait garder pour lui seul. « Qu'est-ce que tu vas donc faire ?» lui demandaient ses camarades, pour s'entendre répondre avec un accent farouche « Qui vivra, verra !» Et chacun admirait sa réserve. Avant la fin de la trêve, le lieutenant Dubert obtint une compagnie. C'était une promotion bien méritée, que personne ne semblait pourtant attendre. Quand Ferraud apprit la nouvelle dans une réunion d'officiers, il grommela entre ses dents « Ah, vraiment !» Saisissant son sabre accroché près de la porte, il l'agrafa soigneusement et quitta le cercle sans un mot. Il rentra chez lui à pas mesurés, battit le briquet et alluma sa chandelle. Puis, empoignant un malheureux verre sur la cheminée, il le jeta violemment à terre. Maintenant que Dubert était son supérieur, il n'y avait pas à songer au duel. Les adversaires n'eussent pu envoyer ou relever un appel sans encourir le conseil de guerre, et c'était chose impossible. Ferraud, qui n'éprouvait plus depuis longtemps aucun désir sincère de rencontrer Dubert les armes à la main, s'emporta à nouveau contre l'injustice systématique du sort. « Alors, il espère s'en tirer comme cela !» se disait-il avec indignation. Il voyait dans cette promotion une intrigue, une conspiration, une lâche manœuvre. Le colonel savait bien ce qu'il faisait. Il s'était dépêché de recommander son favori pour l'avancement. Il était scandaleux qu'un homme pût échapper de cette façon sournoise et tortueuse aux conséquences de ses actes. Joyeux luron jusque-là, et de tempérament plus combatif que militaire, le lieutenant Ferraud s'était contenté de donner et de recevoir des coups par simple goût de violence et sans grand souci d'avancement, quand une ambition ardente lui poussa tout à coup. Ce sabreur de vocation décida de saisir toutes les occasions de se faire valoir et de briguer, comme un intrigant, la faveur de ses chefs. Il se savait aussi brave que quiconque, et n'avait jamais douté de son charme personnel. Pourtant, ni la bravoure ni le charme ne semblaient agir bien vite. L'exubérance de bon garçon qui valait des amitiés à Ferraud fit place chez lui à une humeur chagrine. Il se mit à accabler d'allusions amères les malins qui sont capables de tout pour avancer plus vite. L'armée en était pleine, disait-il. Il n'y avait qu'à regarder autour de soi. À vrai dire, il ne pensait qu'à un seul homme, à son adversaire, à Dubert. Un jour, il déclara à un ami sympathique « Moi, vois-tu, je ne sais pas faire les courbettes. Ce n'est pas dans mon caractère. » C'est seulement après Austerlitz qu'il fut promu. La cavalerie légère de la grande armée eut des semaines de belles besognes sur les bras. Dès que fut un peu calmée la fièvre des opérations militaires, le capitaine Ferraud se mit en mesure d'organiser une rencontre sans perdre de temps. « Je connais mon oiseau, » fit-il remarquer d'un air sombre. « Si je n'ouvre pas l'œil, il s'arrangera pour avancer par-dessus la tête d'une douzaine de camarades. Il a le chic pour ce genre de choses. » Le duel eut lieu en Silésie. S'il ne fut pas poussé à mort, il dura au moins jusqu'à épuisement des deux adversaires. L'arme était le sabre de cavalerie, et l'adresse, la science, la vigueur et la résolution déployées par les deux hommes forcèrent l'admiration des spectateurs. Le duel défraya les conversations sur les deux rives du Danube jusqu'aux garnisons de Graz et de Laybach. Il comporta 7 reprises. Malgré maintes estafilades d'où le sang coulait abondamment, les deux officiers refusèrent plusieurs fois, et avec une apparence d'effroyable haine, de laisser arrêter le combat. Cette fureur tenait, chez le capitaine Dubert, au désir naturel d'en finir, une fois pour toutes, avec cette triste histoire. Et chez Ferraud, à une exaltation extrême de ses instincts combatifs, comme à l'incitation d'une vanité blessée. À la fin, échevelé, chemise en lambeaux, couvert de sang et à peine capable de se tenir debout, ils furent emmenés de force par leurs témoins, muets d'horreur et d'épouvante. Plus tard, assaillis par des camarades avides de détails, ces messieurs déclarèrent que l'on ne pouvait pas laisser se poursuivre indéfiniment une telle boucherie. Quand on leur demanda si la querelle était enfin vidée, ils laissèrent entendre qu'un différend pareil ne pouvait se terminer que par la mort de l'un des adversaires. L'intérêt que suscita la rencontre passa d'un corps d'armée à l'autre et gagna jusqu'au petit détachement cantonné entre Rhin et Save. Dans les cafés de Vienne, on estimait en général, d'après les derniers détails, que les adversaires pourraient se rencontrer dans quelques 3 semaines. On escomptait quelque chose de transcendant en fait de duel. Cette attente fut trompée par les nécessités du service qui séparèrent les 2 officiers. On n'avait prêté aucune attention officielle à leur discorde, qui était devenue la chose de l'armée et dont on ne pouvait se mêler à la légère. L'histoire du duel, ou plutôt de la rage de combat des 2 ennemis, dut nuire un peu à leur avancement, car la guerre de Prusse les trouva encore tous 2 capitaines quand elle les réunit. Détachés après Iéna à l'armée du Nord, sous les ordres du maréchal Bernadotte, prince de Pontecorvo, ils entrèrent ensemble à Lübeck. C'est seulement après l'occupation de cette ville que le capitaine Ferraud trouva le loisir de songer à sa conduite future vis-à-vis de Dubert, qui venait d'être nommé 3e aide-de-camp du maréchal. Il y réfléchit une grande partie de la nuit et au matin pria 2 amis éprouvés de venir causer avec lui. « J'ai examiné l'affaire avec le plus grand calme, » fit-il, en fixant sur eux des yeux las et injectés de sang. « Et je vois qu'il me faut en finir avec cet intrigant. » Le voilà qui a réussi à s'insinuer dans l'état-major personnel du maréchal. C'est une provocation directe à mon endroit. Je ne puis tolérer une situation qui m'expose, d'un jour à l'autre, à recevoir un ordre par son intermédiaire. Et Dieu sait quel ordre encore. Cette sorte d'affaire s'est déjà produite une fois, et c'est une fois de trop. Il s'en rend parfaitement compte, soyez tranquille. Je ne puis vous en dire plus, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. La rencontre eut lieu en dehors de Lübeck, sur un terrain découvert, spécialement choisi pour complaire au sentiment général de la division de cavalerie attachée au corps d'armée, qui estimait que cette fois les 2 officiers devaient se battre à cheval. Après tout, ce duel était affaire de cavalerie, et en s'obstinant à combattre à pied, les adversaires paraîtraient faire fi de leurs armes. Les seconds, surpris de la nouveauté d'une telle perspective, se hâtèrent d'en référer à leurs hommes. Le capitaine Ferraud adopta l'idée avec enthousiasme. Pour quelques raisons obscures, dépendant sans doute de sa psychologie, il s'estimait invincible à cheval. Seul entre les 4 murs de sa chambre, il se frottait les mains et grommelait d'un ton triomphant « Ah, mon bel officier d'état-major, je te tiens cette fois !» Quant à Dubert, après avoir longuement regardé ses amis, il haussa légèrement les épaules. Cette affaire avait stupidement et désastreusement compliqué son existence. On n'en était plus à une absurdité près, et toutes les absurdités lui déplaisaient fort. Mais avec son urbanité habituelle, il eut un sourire légèrement ironique et dit de sa voix calme « Ce sera évidemment une façon de rompre la monotonie de l'affaire. » Laissé seul, il s'assit à sa table et se prit la tête à 2 mains. Il ne s'était pas ménagé depuis quelque temps, et le maréchal avait beaucoup exigé de ses aides de camp. Les 3 dernières semaines d'une campagne, menée par un temps affreux, avait affecté sa santé. Quand il était surmené, il souffrait d'un point dans son côté blessé, et cette sensation gênante l'accablait toujours. « C'est encore la faute de cette brute, » se disait-il amèrement. Il avait reçu la veille une lettre de France qui lui a annoncé le mariage de sa sœur unique. Il réfléchit que depuis son départ pour Strasbourg, quand il avait 26 ans et elle 19, il ne l'avait aperçue que 2 fois à la hâte. Dans leur jeune âge, ils avaient été grands amis et confidents, et maintenant on la donnait à un homme, très digne garçon sans doute, mais certainement pas de moitié assez bon pour elle. Il ne reverrait jamais sa chère Léonie. Elle avait une petite tête solide et beaucoup de tact. Elle saurait mener son mari à coup sûr. Il était rassuré sur son bonheur futur, mais se sentait évincé de la première place dans un cœur qui avait été à lui depuis que la fillette avait su parler. Un regret nostalgique de ses années d'enfance attrista le capitaine Dubert, 3e aide-de-camp du prince de Pontecorvo. Il jeta de côté la lettre de félicitations qu'il avait commencée sans aucun enthousiasme, puis, prenant une feuille de papier blanc, il y traça ces mots, « Mon testament et mes dernières volontés ». Absorbé devant son papier, il s'abandonna à des réflexions douloureuses. Le pressentiment qu'il ne reverrait jamais les scènes de son enfance pesait sur son esprit pondéré. Bondissant tout à coup et repoussant sa chaise, il bâilla longuement pour bien se prouver qu'il n'attachait pas la moindre importance au pressentiment. Il se jeta sur son lit et s'endormit. Pendant la nuit, il frissonna à diverses reprises sans s'éveiller. Au matin, il sortit de la ville en parlant de choses indifférentes avec ses deux témoins et en jetant, avec un détachement apparent, les yeux à droite et à gauche sur le lourd brouillard du matin qui couvrait les prairies plates bordées de haies. Il sauta un fossé et aperçut plusieurs silhouettes de cavaliers dans la brume. « Il paraît que nous allons nous battre en public, » murmura-t-il amèrement. Ses seconds s'inquiétaient de l'état de l'atmosphère, mais bientôt un pauvre soleil pâle émergea des vapeurs, et Dubert distingua dans le lointain trois cavaliers, un peu à l'écart des autres. C'était le capitaine Ferraud et ses témoins. Il tira son sabre pour s'assurer qu'il était bien fixé à son poignet. Les seconds, qui s'étaient réunis au centre du terrain, en rapprochant les têtes de leurs chevaux, se séparèrent au petit galop et laissèrent un vaste champ libre entre les deux adversaires. Dubert regarda le soleil pâle et les champs tristes, et l'imbécilité de ce nouveau duel le remplit d'une immense désolation. D'un coin éloigné du champ, une voix de stenteur lançait des commandements à intervalles réguliers. « Au pas ! Au trot ! Chargez !» On n'a pas pour rien des pressentiments de mort, se dit Dubert en éperonnant son cheval. Aussi fut-il plus que surpris lorsque, dès le premier choc, il vit le capitaine Ferraud affligé d'une balafre au front qui l'aveuglait de sang et le mit hors de combat. Le duel se terminait avant même d'être sérieusement entamé. On ne pouvait songer à continuer. Le capitaine Dubert laissa sur le terrain son ennemi qui jurait horriblement et vacillait sur sa selle entre ses témoins atterrés. Il sauta à nouveau le fossé et trotta jusqu'à son logis avec ses deux amis qui paraissaient très frappés d'une issue aussi expéditive. Le soir, Dubert termina la lettre de félicitations qu'il écrivait à sa sœur pour son mariage. Il l'acheva à une heure avancée. C'était une longue lettre et Dubert lâcha la bride à sa fantaisie. Il disait qu'il allait se sentir un peu solitaire après un tel changement dans la vie de sa sœur. Mais l'heure viendrait sans doute pour lui de se marier aussi. En fait, il envisageait déjà l'époque où il n'y aurait plus personne à combattre en Europe et où le règne des guerres serait terminé. « J'espère, à cette heure-là, écrivait-il, me trouver à distance raisonnable du bâton de maréchal. Toi, qui seras une épouse d'expérience, tu me chercheras une femme. Je serai sans doute chauve et un peu blasé. Il me faudra une jeune fille, jolie bien entendu, et dotée d'une grosse fortune, pour m'aider à clore ma glorieuse carrière avec une splendeur en accord avec mon rang élevé. » Il racontait pour terminer qu'il venait de donner une leçon à un imbécile hargneux et importun qui croyait avoir sujet de se plaindre de lui. « Mais si tu entendais jamais, au fond de ta province, taxer ton frère de tempérament querelleur, n'en crois rien. » On ne peut jamais savoir quel ragot pourrait atteindre tes oreilles innocentes. En tout cas, dis-toi bien que ton frère, toujours tendre, n'a rien d'un bretteur. » Sur quoi le capitaine Dubert, froissant la feuille de papier sur laquelle il avait écrit « Mon testament et mes dernières volontés », la jeta au feu avec un grand éclat de rire. Il se moquait bien de ce que pouvait faire l'énergumène. Il venait d'acquérir la soudaine conviction que son adversaire ne saurait en rien affecter sa vie, si ce n'est pour mettre une animation particulière dans les intervalles joyeux et charmants qui séparaient les campagnes. Mais, de ce moment, il ne devait plus y avoir d'intervalles paisibles dans la carrière du capitaine Dubert. Il vit les champs de bataille d'Eylau et de Friedland, fit marche et contre-marche dans la neige, la boue et la poussière des plaines de Pologne, acquit honneur et avancement sur toutes les routes de l'Europe septentrionale. Cependant, le capitaine Ferraud, envoyé en Espagne avec son régiment, y prenait part à une guerre odieuse. C'est seulement quand commencèrent les préparatifs de la campagne de Russie qu'il repartit pour le Nord. Il quitta sans regret le pays des mantilles et des oranges. Les premières atteintes d'une calvitie qui n'était pas mécéante donnaient au front du capitaine Dubert une ampleur nouvelle. Son visage n'était plus blanc et lisse comme au temps de sa jeunesse. Le regard ouvert et doux de ses yeux bleus s'était un peu durci à percer la fumée des batailles. La toison d'ébène du colonel Ferraud, rude et feutrée comme un casque de crin, était semée de nombreux fils d'argent près des tempes. Une guerre détestable d'embuscades et de surprises sans gloire n'avait pas amélioré son caractère. La courbure de son nez aquilin s'encadrait rudement de plis profonds qui descendaient de chaque côté de sa bouche. Des rides irradiaient autour de ses orbites ronds. Plus que jamais, il évoquait l'image d'un oiseau irritable, aux yeux fixes, croisement de perroquets et de hiboux. Il clamait toujours avec la même acrimonie sa haine pour les intrigants et se prévalait de toutes les occasions pour affirmer qu'il n'avait pas ramassé ses galons dans les antichambres des maréchaux. Les malavisés, civils ou militaires, qui, pour être aimables, demandaient où il avait ramassé la cicatrice très visible qui lui barrait le front, étaient surpris de s'entendre rabrouer de façon diverse, tantôt avec une simple grossièreté, tantôt sur un ton de mystère sardonique. Les jeunes officiers se laissaient conseiller par leurs anciens, mieux instruits, de ne pas regarder trop fixement la cicatrice du colonel. Il fallait d'ailleurs qu'un officier fût bien neuf dans le métier pour ne pas connaître l'histoire légendaire de cette discorde, née d'une offense mystérieuse et impardonnable.